Bonsoir, ce soir, comme tous les lundis, l'émission de la Confédération Nationale du Travail, le monde merveilleux du travail. Et ce soir, premier lundi du mois, c'est le syndicat de l'industrie informatique, donc membre de la CNT, qui vous parle. Nous allons aujourd'hui revenir sur un sujet qu'on avait déjà abordé, mais qui mérite qu'on y revienne, qui est l'obsolescence programmée des matériels, en particulier des matériels techniques, technologiques, informatiques. Alors, je vais juste faire une toute petite présentation en quelques mots et après je passerai la parole aux autres intervenants. Donc ce soir, on a Colin à la technique, on a Guillaume, on a Clément. Bonsoir. Et moi-même Bernard. Donc on est parti, l'obsolescence. Alors l'obsolescence, eh ben, c'est le fait que le matériel que vous achetez, au bout d'un moment, il n'est plus à la hauteur, ou il est cassé, ou il est en panne, ou il est dépassé techniquement. Alors il y a plusieurs sortes d'obsolescence, en gros on peut considérer trois cas différents. Il y a ce que j'appelle l'obsolescence technique imposée, c'est-à-dire que bah, c'est du matériel qui subit des contraintes variables et puis qui se fatigue. L'exemple typique c'est le pneu qui s'use, le roulement à billes de la roue qui au bout d'un certain temps bah, il est mort. Alors ça se passe comment? Bah, on sait que le matériel peut durer un certain temps, et quand on construit, ben on calcule, donc pour une voiture, il y a une époque, on calculait que ça pouvait faire 500 000 km, pour ceux qui ont connu les 504 Peugeot diesel, ça faisait tranquillement 500 000 km, et au moins le moteur. Voilà, donc ça c'est une obsolescence technique, mais qui est naturelle, c'est-à-dire que c'est une contrainte de la nature, c'est une contrainte physique. Après, on a une autre sorte d'obsolescence technique, c'est celle qui est décidée un petit peu. C'est le cas, par exemple, du matériel électroménager. Ben, moi, quand j'étais jeune, un frigo, ça durait 15-20 ans. Maintenant, ça dure 10 ans. Pourquoi ? Parce que la tôle est moins épaisse, parce que ça se pourrit, parce que ça se rouille. Donc ça, c'est déjà un peu moins sympathique. Et après, il y a un autre type d'obsolescence, c'est l'obsolescence de type mode. C'est-à-dire que ben, votre produit, il est en parfaitement bon état, il marche très bien, mais il y a la nouvelle version qui vient de sortir. Et ça, il faut absolument l'avoir. Donc c'est le sujet de notre discussion de ce soir. Alors pour votre information, le 27 octobre, donc le syndicat de l'industrie informatique de la CNT organise une projection débat 33 rue des Vignoles, hein, donc le local de la CNT. Vous trouverez toutes les infos sur notre site internet.
On peut peut-être juste dire effectivement qu'on va projeter donc le film qui s'appelle Prêt à jeter. Un film qui avait été diffusé sur Arte, sur le sujet précisément de l'obsolescence programmée. Et suite à ça, donc, débat libre entre tous les intervenants qui voudront bien y participer.
J'ai juste oublié un petit quelque chose. Si vous voulez intervenir ou parler avec nous, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40, donc le standard du studio de Radio Libertaire.
Voilà. Alors moi, ce que je peux proposer pour débuter, c'est un bref historique. Alors, donc bref, parce qu'il ne sera pas forcément exhaustif, je ne vais pas parler de tout, mais des généralités sur l'histoire de l'obsolescence, parce que c'est assez révélateur de la logique et de la manière dont ça a évolué. Donc en gros, l'obsolescence programmée a commencé à apparaître dans les années 20 aux États-Unis. Avec notamment le cartel Phoebus, qui était une réunion d'industriels qui, à l'époque, travaillaient dans l'électricité. Donc il y avait General Electric, Philips, Osram, parmi les plus gros de l'époque. Et donc ces industriels-là se sont entendus, à l'époque, sur les lampes électriques. Donc à l'époque, déjà, on avait la capacité technique, les connaissances techniques, pour faire des lampes électriques qui pouvaient durer environ 100 000 heures. Donc ça, c'était breveté, ça existait, c'était connu. Mais eux ont constaté que faire des lampes électriques qui duraient 100 000 heures, c'était pas rentable, parce que ça voulait dire que le consommateur achetait sa lampe et il n'en rachetait une que 100 000 heures plus tard. Donc ils se sont entendus pour créer en quelque sorte une durée de vie standard qui leur convenait, qui était de 1000 heures. Ils se sont entendus sur 1000 heures, donc ils se sont dit voilà, maintenant on va tous faire des lampes électriques qui vont durer maximum. Enfin, bon, après c'est une approximation, mais on va se débrouiller pour faire des lampes de 1000 heures. Donc ils ont fait plancher leurs ingénieurs sur ce genre de produit. Et effectivement, les lampes, à partir de cette époque, se sont mises à durer à peu près ce temps-là, à peu près 1000 heures. Donc ça, c'est ce dont parlait Bernard tout à l'heure, c'est l'aspect technique de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire on décide que techniquement, un produit va être usé ou va être cassé au bout de tant de temps. Donc ça a commencé par là. Et puis, voilà, entre les années 20, les années 30, il y a toujours eu ce système, donc ça s'est, entre guillemets, perfectionné, on a continué à exploiter le filon. Et notamment en 1932, on a eu un autre états-unien qui s'appelait Bernard London, qui a, si on veut théoriser, en tout cas il a écrit un livre, et dans ce livre il y a un chapitre en particulier qui serait le premier à employer le mot d'obsolescence programmée, et qu'il théorise, si on veut, suite donc à l'époque, donc on est en 1932, donc ça fait suite au crack de 1929, si je ne me trompe pas. Et donc il y a une crise, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Mais donc ce Bernard London constate que suite à la crise, les citoyens ont moins tendance à acheter. Comme ils ont moins d'argent, comme ils ont moins de revenus, ils vont plutôt avoir tendance à faire durer leurs produits plus qu'auparavant. Donc ils vont conserver leur voiture, leur réfrigérateur, même si le réfrigérateur était pas forcément hyper répandu à l'époque. Ouais, ça devait déjà exister, mais c'était plus dans les années 50. Enfin voilà, en tout cas, ils ont. Lui, il a théorisé ça. Il a dit, en gros, bah, l'obsolescence programmée, c'est bon pour l'économie. C'est bon parce que ça va permettre de faire renouveler aux consommateurs plus souvent leurs produits. Donc on en revient avec l'exemple de la lampe électrique de tout à l'heure. C'est sûr que renouveler une lampe toutes les 1000 heures, c'est plus rentable économiquement parlant pour l'entreprise qui produit les lampes que de renouveler une lampe tous les 100 000 heures. Et donc ça se poursuit petit à petit, mais dans les années 50 à peu près, à partir des années 50, on voit un autre type d'obsolescence qui fait son apparition, Bernard l'a mentionné aussi tout à l'heure, c'est l'obsolescence de mode, l'obsolescence des designers, c'est-à-dire que là, on va plus raisonner en termes de, uniquement en tout cas de technicité, mais on va se dire comment faire, comment pousser le consommateur à renouveler de lui-même son matériel. Donc on va plus attendre, enfin on va le pousser à ce qu'il n'attende plus de lui-même que son produit soit défectueux pour le changer, mais il va le changer alors qu'il est encore en état de fonctionner parce que il sera plus à la mode, il sera plus au goût du jour. Et ça, ça a été assez bien dit par un designer des années 50 qui s'appelait Brooke Stevens, un autre États-Unis, et qui l'a formulé de la façon suivante. Il disait: il faut inculquer à l'acheteur le désir de posséder quelque chose d'un peu plus récent, un peu meilleur et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire. Donc moi je la trouve assez intéressante cette phrase, j'aime bien la citer quand je parle d'obsolescence programmée, parce qu'on voit bien le côté, il faut inculquer, donc il y a vraiment le côté marketing publicitaire, on va formater, on va dresser quelque part les gens à renouveler perpétuellement leur matériel pour des raisons de mode, pour des raisons esthétiques, pour des raisons subjectives. Et donc, à partir de cette date-là et jusqu'à aujourd'hui, ces deux types de deux ou trois ou X types d'obsolescence programmée ont continué à cohabiter et cohabitent toujours dans la société qu'on connaît. Le dernier exemple en date qu'on pourrait citer, c'est l'iPhone 5. Donc pour ceux qui en ont entendu parler, il y a une association qui s'appelle Les Amis de la Terre et qui a protesté contre cet iPhone 5, notamment du fait qu'en fait, il n'apporte pas de réelle innovation, de réelle nouveauté. Il est là uniquement comme produit de pointe, produit high-tech que chacun a envie d'avoir pour être à la mode, mais qui finalement n'a pas, en termes d'utilité, n'a aucune pertinence. Et surtout, la petite subtilité de l'iPhone 5, c'est qu'ils ont changé les ports, c'est-à-dire le port de la batterie, par exemple, pour recharger son iPhone 5 ou ce genre de choses. C'est plus le même que ce qu'on a connu sur les versions précédentes, ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser le chargeur de batterie des iPhones précédents pour recharger son iPhone 5, par exemple, ce qui fait que bah, quand on achète un iPhone 5, on est obligé de racheter tout ce qui va avec. En plus, je crois qu'il est un petit peu plus grand, donc comme ça, on est obligé de racheter la coque, la housse.
En la plus, totale. Sur le chargeur de batterie, hein, une chose qui est intéressante, c'est que, soi-disant, tous les constructeurs de téléphones s'étaient engagés à adopter un seul modèle pour tous les constructeurs de téléphones de chargeur de batterie. de prise. Donc on était à peu près garanti de pouvoir avoir un seul chargeur pour tous les modèles de téléphone. Et là, bah, les fabricants du iPhone ont décidé que non seulement ils n'étaient pas au standard, mais en plus ils faisaient évoluer leur propre standard pour pouvoir vendre encore plus de matériel. D'où, accessoirement, si les amis de la Terre se mettent dedans, c'est qu'il y a un énorme gaspillage écologique.
Il y a des impacts écologiques, effectivement, qui sont...
Mais la marque à la pomme est réputée pour ce genre de pratique commerciale, je veux dire, sur les ordinateurs. C'est déjà le cas sur, par exemple, c'est eux qui ont introduit le mini port pour le connecter à l'écran. Alors, c'est du mini HDMI, je crois, ça s'appelle techniquement. Voilà, c'est un truc qui techniquement n'apporte rien, mais qui est incompatible avec la plupart des prises qui vont être en gros HDMI, entre guillemets.
Voilà, c'est ça. C'est, alors qu'on a la capacité technique de faire, on va dire, du standard pour que tout soit compatible avec tout, effectivement, volontairement, chacun fait sa prise, sa spécificité, sa taille de ceci, cela. Comme ça, on s'assure que dès qu'on achète le produit de telle marque, la marque Apple par exemple, bah, voilà, derrière, il faut acheter tous les X périphériques, les produits dérivés qui vont avec, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est compatible avec rien. Et donc, c'est vrai que cet aspect obsolescence programmée est particulièrement visible et particulièrement prononcé dans les NTIC. Donc, c'est un peu notre domaine, on va parler principalement de ça. Mais faut pas oublier que c'est beaucoup plus large que ça. C'est vrai pour les vêtements. Dans le film, hein, si vous venez voir la projection des bas, vous verrez qu'il parle des bas nylons. Donc c'est vrai pour les bas nylons. C'est vrai. C'était vrai pour les voitures à une époque notamment. Et c'est vrai pour les technologies, les NTIC, les nouvelles technologies.
Alors, je peux revenir sur le cas des ampoules que tu as cité, Guillaume. C'est que dans le documentaire, ce qu'il ne précise pas, c'est que les ampoules qui avaient une durée de vie très longue avaient aussi une luminosité assez faible. Donc la durée de vie d'une ampoule, c'est un compromis entre sa durée de vie et sa luminosité grossièrement. Et donc quand on décide de faire des ampoules qui ont une durée de vie de 1000 heures, on augmente aussi mécaniquement leur luminosité. Donc c'est pas un jeu à un seul paramètre. Il y a quand même plusieurs choses que les clients peuvent demander. Je veux dire, a priori, les clients, comme on le voit avec les ampoules basse consommation actuellement, qui éclairent moins au démarrage, les clients aiment avoir des ampoules qui éclairent. Donc, dans ce cas, je pense qu'actuellement, si ce genre de cartel sur les ampoules électriques aurait plus de mal à se mettre en place, parce qu'il y a des contraintes aussi, que les clients demandent des produits qui ont certaines propriétés. Et d'ailleurs, des ampoules à très longue durée de vie, on peut en voir dans le métro, par exemple sur la ligne 3, y en a certaines dans les tunnels.
Sur toutes les lignes, presque toutes les lignes du métro, il y a des ampoules à très longue durée de vie. Alors ça, c'est facile à faire. On prend une ampoule normale et au lieu de l'alimenter en 220, on l'alimente en 15 volts. Alors ça éclaire très très peu. C'est ce qu'on voit dans le film de la caserne de pompiers qui est connu. Alors en fait, c'est une ampoule tout à fait standard, mais elle est sous-alimentée. Et ça, l'avantage, c'est qu'elle dure très très longtemps. Bon, chez les pompiers, ça n'a aucun intérêt, mais dans les couloirs du métro, dans les tunnels de métro, ça a un avantage, c'est que ce sont des ampoules, elles sont généralement toutes par deux.
Oui.
Et ce qui fait qu'il n'y a pratiquement aucune chance que les deux tombent en panne en même temps. Et donc ça permet d'avoir une lueur qui permet aux gens de la RATP qui sont dans les tunnels de voir quelque chose.
De voir un peu, parce que justement, elles n'éclairent pas beaucoup.
Voilà, c'est juste pour avoir un point de repère. Et justement, en jouant sur le paramètre voltage, on peut les faire durer très très longtemps. Eh bien écoutez, on va faire une petite pause avant de passer à la suite du programme. Donc
Colin va nous envoyer
un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. We'll be right back.
Voilà, donc nous reprenons le cours de l'émission sur Radio Libertaire, l'émission hebdomadaire de la Confédération nationale du travail, le monde merveilleux du travail. Ce soir, le syndicat de l'industrie informatique. Et nous vous parlons de l'obsolescence programmée. Donc je rends la parole à Guillaume.
Alors, petite précision, c'est vrai qu'on va peut-être insister un peu là-dessus. Donc il y aura une projection débat au Vignol. Ce sera le 27 octobre sur ce thème-là, obsolescence programmée. On va projeter le film Prêt à jeter, dont c'est le thème, qui va parler de l'obsolescence dans les nouvelles technologies, mais pas seulement, pour tous les produits de consommation, avec un historique, etc. Et derrière, il y aura un débat libre qui sera lancé. Donc on vous attend nombreux pour tous ceux que le sujet intéresse. Donc on va reprendre le sujet qui nous occupe, de l'obsolescence programmée. On a vu qu'il y avait en gros deux grands types d'obsolescence, qui étaient l'obsolescence technique et l'obsolescence un peu plus marketing, enfin dans l'obsolescence programmée, hein, pas dans l'obsolescence dont parlait Bernard au début, qui est l'obsolescence entre guillemets naturelle, d'usure, le fait d'utiliser un produit, mais dans l'obsolescence voulue, programmée, et donc la partie technique et la partie marketing, qui sont développées successivement et qui marchent conjointement aujourd'hui.
Oui, qui marche conjointement, puisque un exemple typique, c'est la fameuse marque dont on parlait tout à l'heure, qui est la spécialité, c'est d'avoir les batteries soudées, les batteries du matériel soudées, parce que sur un ordinateur normal, on peut changer la batterie, parce qu'on va utiliser l'ordinateur un certain temps, et que la batterie éventuellement mourra avant l'ordinateur, mais il y a une certaine marque qui considère qu'on changera l'ordinateur, il sera passé de mode avant que la batterie soit morte.
Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est Apple, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui est concerné par ça. Ils ont eu des soucis avec la justice états-unienne à cause de ça, parce que quand ils ont sorti leur iPod, effectivement, tous les composants étaient donc avaient ce montage en bloc, c'est-à-dire que tout est soudé, tout est monté sur le même bloc. Donc la batterie de l'iPod était prévue techniquement, donc il y avait une obsolescence programmée de 18 mois. La durée de vie approximative de la batterie, c'était 18 mois. Et quand les personnes, donc, qui effectivement, du coup, la batterie n'a duré que 18 mois, donc quand il y a eu des consommateurs qui sont venus dans les Apple Store en disant, l'iPod marche plus, qu'est-ce qui se passe ? Les gens d'Apple disaient, rendez-le nous, et puis on va vous redonner un nouveau matériel, on va vous redonner un iPod complet, alors soit il fallait le racheter, soit ils le remplaçaient si c'était encore sous garantie, mais il n'y avait pas possibilité de changer juste la batterie, puisque précisément, tout était soudé ensemble. Et donc, il y a des consommateurs qui ont fait un procès à Apple, qui ont gagné d'ailleurs, par rapport à ces méthodes qui sont qui empêchent toute possibilité de réparation, en fait, qui empêchent toute possibilité de changer une pièce. Ce qui se passe un peu d'ailleurs quand c'est possible, mais que c'est plus cher. Parfois, la pièce neuve d'un appareil, je ne sais pas que ce soit d'un réfrigérateur ou d'un micro-ondes, d'un ordinateur même, pourquoi pas, le fait de changer la pièce, si on ajoute même des fois le coût de la main d'œuvre, c'est plus cher que de racheter un produit neuf. Et ça fait partie aussi de techniques d'obsolescence programmée pour inciter le consommateur à sans cesse renouveler ses biens.
Et dans cet argument aussi de le fait que réparer un objet technologique actuellement ça coûte cher, il y a aussi une partie que dans les pays occidentaux, le matériel ne coûte pas très cher, par contre la main-d'œuvre coûte cher, proportionnellement. Mmh. Bon, je ne vais pas me faire l'avocat du MEDEF en disant que la main-d'œuvre coûte cher, mais elle coûte plus cher que dans d'autres pays, je veux dire, objectivement. Et donc, c'est aussi une raison commerciale qui ne pousse pas les industriels à faire de la réparation, c'est que l'artisanat, pour simplifier, ça coûte cher. Et donc, si vous n'êtes pas capable de faire votre réparation vous-même, ça va forcément vous coûter cher, entre guillemets, de le faire réparer. Comme quand vous appelez un plombier ou un artisan qui vient chez vous pour faire une opération qui va vous facturer à l'heure, chaque heure, à un certain prix, qui est important par rapport à la quantité de matière, que ce soit un plombier qui va faire, je sais pas quoi, de la peinture ou des choses comme ça, qu'il va utiliser.
Ah, c'est sûr. Puis bon, faut reconnaître, on y regarde tous. Hein. C'est sûr qu'entre un artisan, effectivement, qu'on appelle, il nous dit « ça sera 300 euros », et on regarde en magasin, racheter le produit, ça va être 50. Bon, je pense que tout le monde fait les comptes et regarde son budget et peut être tenté de racheter le produit plutôt que de le faire réparer. Parce qu'effectivement, comme tu dis, la main-d'œuvre, ça peut coûter cher et ça fait réfléchir à deux fois.
Ouais. Enfin, surtout qu'on n'est en plus pas dans une économie où c'est le cas. Je veux dire, si tu veux, il n'y a pas du tout une économie de l'artisanat ou de la réparation. Donc si tu pars de zéro, c'est difficile. Après, c'est une tendance lourde des dernières dizaines d'années, je pense.
Oui, mais après, c'est vrai que c'est... Je pense, hein, c'est un avis personnel, mais c'est un vrai problème, ce système où finalement la réparation devient bannie de fait, parce qu'effectivement pour des raisons de coût, parce que, bon, déjà pour deux raisons, je pense, hein, on va exploiter du coup une main-d'œuvre pas chère, une main-d'œuvre exploitée ailleurs, dans les pays du tiers-monde, en Chine, en Inde et ailleurs, en Afrique. Donc il y a un côté exploitation humaine dans ce qu'on consomme, et il y a un côté, Bernard t'en a parlé un peu tout à l'heure, un côté impact écologique, parce que le fait de produire sans arrêt des produits qu'on renouvelle sans cesse, ça crée des...
Bah, il faut voir quand même que ça rentre dans une logique financière, hein. On essaye de produire les matériaux, les produits au moindre coût, donc en simplifiant la construction au maximum. Et en simplifiant la construction au maximum, on empêche la réparation. Donc on va produire des appareils qui vont être fabriqués dans des pays où la main-d'œuvre coûte pas cher. Donc ça est tout bénef pour les fabricants. Ces appareils ne sont pas réparables et puis c'est impeccable parce que justement dans les pays où la main-d'œuvre est pas chère, il y a des gens qui sont prêts pour pouvoir vivre, aller gratter les produits avec gratter les composants électroniques avec des produits chimiques, bien se pourrir la santé et bien pourrir leur terrain, mais c'est pas grave, ça se passe pas chez nous. Voilà. Donc il y a quand même une logique de profit à court terme sans s'occuper de l'impact écologique sur la planète et de l'impact humain. On va préférer faire travailler des gens à 3 francs 6 sous dans des pays lointains et nous avoir des artisans et des gens compétents qui pourraient travailler et ne plus avoir travaillé parce qu'ils ne peuvent plus réparer, ils n'ont pas la possibilité de réparer. Donc il y a toute une logique quand même financière de profit à court terme pour un petit nombre qui est cohérente, on va dire. C'est triste à dire, mais c'est cohérent.
Non, mais c'est vrai que ça, il faut le dire. Hein. Je pense que économiquement parlant, l'obsolescence programmée, c'est une manne pour le système tel qu'il est pensé, pour le système capitaliste. Le système se repose énormément sur ce genre de technique, et c'est un boost énorme d'avoir de miser sur l'obsolescence programmée pour un système économique qui est celui dans lequel on vit. D'ailleurs, c'est pareil, dans le film Prêt à jeter, on voit qu'il y a une comparaison avec l'Allemagne de l'Est. Il y a l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui sont montrées comparées, on va dire, et notamment pour le réfrigérateur. Et il y a une personne qui vit à Berlin-Est, donc qui maintenant est rattachée, bien sûr, mais qui a acheté un réfrigérateur à l'époque où c'était encore sous l'Union soviétique, etc. Et effectivement, son réfrigérateur, je ne sais plus s'il a 25, 30 ans dans le film ou plus. Et en fait, c'est expliqué qu'effectivement, dans un autre système économique, qui était le système de l'Union soviétique, alors qu'après, évidemment, on peut critiquer qu'il n'est pas parfait, qu'il avait ses travers, mais en tout cas, qui était complètement différent dans la manière de raisonner, ça n'avait aucun sens, aucune logique de cette obsolescence programmée. On n'était pas là pour faire des produits qui allaient s'user, au contraire, la logique, c'était de faire des produits les plus résistants possibles pour qu'ils durent le plus longtemps possible, parce que la logique économique n'avait rien à voir et on n'était pas dans l'objectif pour une entreprise donnée de faire un maximum de profit et si possible sur un court terme. Donc évidemment la logique économique est directement responsable de la présence ou de l'absence d'obsolescence programmée dans la production et dans la consommation.
Un exemple typique aussi de la bêtise du système, c'est que les gens qui ont travaillé en Afrique le connaissent bien. Bon, moi, j'ai travaillé un moment en Afrique, et à l'époque, j'ai vu des taxis qui roulaient avec des Mercedes qui avaient plus de 20 ans, qui étaient réparés avec des bouts de ficelle, des bouts de ferraille, des trucs, des machins, et quelquefois des pièces d'origine, mais bon, c'est des voitures qui étaient des voitures de collection en Europe, et qui étaient le taxi de base... au Maroc, à l'époque où j'y étais. Donc on s'aperçoit qu'il y a du matériel qui peut durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on s'imagine, que ce pourquoi c'est conçu. Mais bon, c'est exactement ce que disait Guillaume. On est dans un domaine de choix de société où on privilégie la qualité de vie. On peut dire, au lieu de verser des dividendes, ben on peut faire en sorte que les gens soient obligés de travailler moins longtemps ou de ne produire que les produits dont ils ont besoin.
C'est ça. Ça, on peut étendre la question, on peut étendre le débat à beaucoup de choses. C'est vrai que le fait de devoir en permanence renouveler des produits, en termes de travail, en termes d'aliénation au travail, ça joue, parce que du coup, on mobilise une grosse partie de la population qui doit sans cesse travailler, mais finalement travailler pour quoi ? Pour fabriquer des produits de mauvaise qualité, qu'il va donc falloir fabriquer en permanence et renouveler tout le temps. Donc en fait, alors qu'on pourrait produire peu de produits, mais qui durent très longtemps, et donc quelque part libérer les personnes, les êtres humains, d'une charge de travail finalement inutile, on les maintient dans un système qui va les faire travailler pour pouvoir produire des produits de mauvaise qualité qui vont tomber en panne, donc il va falloir renouveler, donc il va falloir qu'ils travaillent en permanence. En fait, voilà, on est dans une espèce de cercle qui est complètement... Enfin, qui a une logique d'un certain point de vue, du point de vue de ceux qui gagnent de l'argent, mais qui est complètement illogique du point de vue de la majorité, parce que finalement, on est tous à travailler comme des fous pour produire sans cesse, alors qu'on pourrait faire autrement. C'est surtout ça le point, je pense, qui est important. C'est pas qu'on est contraint parce qu'on n'a pas les connaissances pour faire autrement, c'est qu'on pourrait produire autrement, mais on est contraint de produire comme ça pour satisfaire les logiques économiques d'une petite minorité qui, elle, en profite bien. Donc bon, ça fait... je crois que ça fait réfléchir.
On a d'ailleurs tout à fait ce système dans un domaine qu'on connaît bien, qui est l'industrie du logiciel, où tu vas avoir, par exemple, un changement de système d'exploitation pour s'adapter à ta machine qui n'est pas assez puissante pour l'ancien système. Elle était assez puissante à un certain moment, maintenant elle ne l'est plus, on ne sait pas trop pourquoi. Et en conséquence d'un changement, par exemple, de système d'exploitation, tu vas devoir, tous les éditeurs de logiciels vont devoir faire des mises à jour de leurs logiciels à eux qui ne sont pas compatibles avec ce système d'exploitation. Et là, on est en plus dans un monde, entre guillemets, purement logiciel, où il n'y a pas trop de matériel en jeu, parce que tu vas changer des logiciels sur ton ordinateur, alors que les logiciels précédents marchaient très bien, c'est juste que le monde évoluant, entre guillemets, tu es obligé de changer tes logiciels. Et donc, il y a une partie du travail des informaticiens qui va être vraiment une mise à jour qui n'a pas souvent de sens dans le monde du logiciel.
Oui, qui n'apporte pas forcément de plus pour l'utilisateur.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ou qui apporte un plus vraiment pour une fraction avancée d'utilisateurs qui ont besoin de telle fonction, qui va être dans un nouveau logiciel qui est incompatible avec la version précédente. Et en fait, l'éditeur de logiciel va forcer l'incompatibilité de manière à pouvoir vendre de nouvelles licences en contraignant un peu l'utilisateur, comme on parlait tout à l'heure avec Apple. C'est une stratégie assez connue d'un éditeur logiciel qui est en train de, pas de faire faillite, mais qui a des difficultés financières. C'est on va faire une mise à jour qui est incompatible avec la précédente et tous nos utilisateurs sont obligés de racheter une nouvelle licence.
Ouais. Et on se fait du fric sur un court terme, mais après, à long terme,
c'est pas forcément une bonne stratégie à long terme pour garder tes utilisateurs que de les...
Oui, que de les faire payer.
De les laisser en short tous les deux ans. Mais...
non, mais ça se fait.
Bah, il y en a qui font leur peur comme ça.
Très bien avec ça. Mais bon, on en revient toujours à la même question. C'est le travail, c'est l'organisation de la société. Est-ce que le but du travail, c'est de gagner suffisamment pour pouvoir survivre, ou c'est simplement de produire les produits qui sont nécessaires à la société et puis d'avoir du temps disponible après pour faire autre chose?
Oui, c'est sûr que... D'ailleurs, on pourrait peut-être s'amuser, entre guillemets, hein, à regarder la chaîne complète d'un produit de consommation de nos jours. Et si on regardait tous les impacts que ça a d'un bout à l'autre de la chaîne, je pense que ce serait assez effrayant. Admettons, bon, on va dire que je suis monomaniaque d'Apple, hein. ce serait vrai sur... c'est parce que je connais un peu plus peut-être que d'autres, mais ce serait vrai sur les marques de téléphone en général, sur les ordinateurs, sur les consoles de jeux, sur les appareils photo numériques, ou pas numériques d'ailleurs, sur les réfrigérateurs, ce serait vrai un peu sur tout. Donc c'est juste un exemple. Mais si on prend l'intégralité de la chaîne, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à la déchetterie, sur un produit comme l'iPhone 5. Les matières premières, on va en avoir besoin parce qu'il va falloir du métal, il va falloir du plastique et il va falloir de l'énergie pour créer ce produit-là. Ça veut dire qu'en Chine, par exemple, on va avoir des ouvriers qui vont travailler dans les mines de charbon, pour extraire du charbon, qui va servir à produire de l'énergie pour les usines qui vont fabriquer l'iPhone. Ensuite, il va y avoir les ouvriers qui vont travailler dans les mines pour extraire les métaux, que ce soit les terres rares ou d'autres métaux, le cuivre, etc., pour tous les composants. Donc déjà, dès ce premier niveau, on a une énorme exploitation de personnes qui sont sous-payées, qui sont maltraitées. Enfin, vous pouvez regarder ça, des reportages sur les conditions des mineurs en Chine, il y en a quelques-uns et c'est pas rose. Donc déjà, à la base, rien que sur cette extraction, ça a un impact sur ces travailleurs qui sont dans ces situations-là. En parallèle de ça, ça a un impact écologique, parce que extraire du charbon et le brûler dans des centrales pour produire de l'électricité, ça a aussi un énorme impact sur l'atmosphère et sur éventuellement les nappes phréatiques, sur les ressources diverses de l'environnement. Donc déjà, rien que là, à l'extraction des matières premières et à l'utilisation des matières premières pour les transformer en produits finis, il y a deux énormes impacts, un impact humain et un impact écologique qui frappe des travailleurs à l'autre bout du monde. Et après, si on va plus loin, l'iPhone 5, entre autres, encore une fois, est fabriqué sur des chaînes de production, notamment par un prestataire, un sous-traitant de Apple qui s'appelle Foxconn, qui est un industriel taïwanais, mais qui a beaucoup d'usines en Chine et même ailleurs, notamment au Brésil en ce moment, il s'implante un peu beaucoup même. Enfin bref, ce prestataire fabrique tous les composants pour la Xbox, la PlayStation, pour l'iPhone, mais aussi pour Dell et compagnie, tous les ordinateurs, tout ce qu'on veut, même l'automobile. Donc là encore, dans ces usines-là, quand on étudie un petit peu ce qui s'y passe, il y a beaucoup d'exploitation des ouvriers, ils sont maltraités, ils sont sous-payés, il y a beaucoup de suicides. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une émeute, peut-être que vous en avez entendu parler, de l'émeute qu'il y a eu dans une usine de Foxconn dans le nord de la Chine, parce que ces ouvriers-là sont constamment sous pression, ils sont maltraités, ils sont même battus par les gardiens. Enfin, c'est des vraies conditions presque carcérales. Donc là, voilà, encore à cette phase de création, de production du produit, on est encore sur de l'exploitation humaine. On est encore sur une empreinte écologique monstrueuse, parce que voilà, tout ce qu'on a extrait du sol et tout ce qu'on est en train de transformer, il faut beaucoup d'énergie pour le produire, encore une fois. Donc du charbon principalement pour la Chine, ou alors ça peut être de l'uranium si c'est des centrales nucléaires, enfin bref. Donc il y a encore énormément de gaspillage et énormément d'impact à ce niveau-là. Et après, quand le produit, évidemment, il est envoyé de Chine, donc on pourra ajouter les coûts du transport, etc., sur l'impact écologique. Je vais passer directement à la phase finale. Donc le consommateur achète le produit, il le garde un an, deux ans, et puis au bout de un an, deux ans, il y a l'iPhone 6 qui va sortir, avec soi-disant innovations, alors que ça ne va rien changer. Donc le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire avec son iPhone 5, qui marche toujours, qui est parfaitement fonctionnel, mais dont il n'a plus envie parce qu'il y a la nouvelle version qui vient de sortir? Bah, il va le jeter, soit à la poubelle, soit dans des centres prétendument de recyclage, etc. Et tous ces déchets-là, après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a une toute petite partie qui est recyclée. Donc ça, c'est ce que vous montrent les industriels quand ils font un peu de com' à la télé. Voilà, on recycle nos produits, on est super gentils. Mais la majorité de ces produits-là, ça part en Afrique de l'Ouest notamment. Pas que en Afrique de l'Ouest, mais entre autres en Afrique de l'Ouest. Et donc, vous avez des plages et des plages entières en Afrique de l'Ouest où les bateaux containers viennent larguer leurs produits, alors électroménagers, informatiques, multimédia divers, donc des écrans de télévision, des réfrigérateurs, tout ce qu'on veut. Et donc ça vient polluer des plages africaines. Et là-bas, on a encore une fois des gens qui sont qui en pâtissent, parce qu'il y a ceux qui essaient de récupérer le cuivre, par exemple, donc qui récupèrent des câbles. Ils les font brûler pour brûler la gaine qui est autour, qui n'est pas en métal, pour récupérer à l'intérieur le cuivre, par exemple. Et donc, ils s'empoisonnent avec les vapeurs toxiques qui sont rejetées quand ils font cette combustion. Et en plus, leur sol, leur nappe phréatique, leurs réserves d'eau sont polluées par les rejets de métaux lourds et autres joyeusetés qui sont contenues dans les produits qui sont en train de pourrir sur place. Donc voilà, d'un bout à l'autre de la chaîne, plus on va dans une logique comme ça de production, de surproduction et de surconsommation, plus on comment dire, on nuit à des personnes et à leur environnement, à notre environnement finalement global, tout du long.
Et en plus, sur le côté purement humain, purement, je dirais, valorisation de la personne, on voit en face, on se trouve avec des gens qui travaillent pour que leur travail soit jeté à la poubelle au bout d'un an. Je trouve que quelque part, il y a une négation de la richesse de l'être humain. On dit, toi, tu travailles pour que ton travail aille à la poubelle dans un an. Personnellement, ça me gêne. Alors, on va refaire une petite pause, si Colin peut nous envoyer la musique. Et on va vous retrouver. Donc, je rappelle, vous pouvez nous rappeler au studio au 01 43 71 89 40.
Here we go. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on the mind. Sunshine in my brain, making everyone complain. Radio in the heart, don't be being so strange. Think I'm losing it, baby, where have you been? Everybody says that you're moving again. I don't wanna be right, baby, every single night. I could tell you a thing about taking your time. It's making me nervous, yeah. One step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend, I got more than on my mind. Sunshine in my brain, making everyone complain.
Résistance, mania, pour des
Donc l'émission reprend son cours, Radio Libertaire, l'émission du lundi soir de la Confédération Nationale du Travail, Le Monde Merveilleux du Travail. Ce soir, le syndicat de l'industrie informatique, membre de la CNT. Nous parlons avec vous de l'obsolescence technique programmée. Donc on vous rappelle que le 27 octobre, on fait une projection débat aux locaux de la CNT, 33 rue des Vignoles. Vous trouverez l'information sur notre site, on en reparlera et donc on reprend le... discussion où on en était.
Au cours de la discussion. Et donc on s'est arrêté.
Juste, ouais. Excusez-moi, là. Donc on a eu un appel d'une auditrice, Sandra, et donc qui nous parlait donc qu'à une certaine époque, les voitures, les deux chevaux, etc., on les achetait pour rouler avec, c'était un outil pour se déplacer, et que au fur et à mesure, en fait, on change de voiture parce qu'elle a un allume-cigare, parce que ceci, parce que cela. Et non plus uniquement pour se déplacer. Et donc, une de ces questions était donc maintenant, on a l'impression d'être mis en demeure de consommer donc à tous les âges. Et donc ça lui faisait un peu peur. Voilà.
Mais c'est exactement ça. C'est assez intéressant parce qu'on en parlait justement entre nous pendant la coupure. C'est la société où au bout d'un moment on n'utilise plus, où la société nous présente plus les objets comme des outils ou comme des moyens de faire quelque chose, mais où nous présente les outils comme des symboles de statut social ou comme des objectifs. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, on achetait une voiture pour... J'ai 60 ans. On achetait une voiture pour aller d'un point A à un point B et on n'essayait pas d'en avoir une plus grosse que celle du voisin, quoi. C'était un moyen de transport, mais maintenant, la voiture, c'est un symbole de statut social. Il faut avoir le dernier modèle, comme tout le reste. Voilà, c'est une évolution, pas seulement chez les industriels, mais c'est une évolution. On a laissé notre société évoluer dans ce sens-là et... L'obsolescence programmée et tout ça, ça revient aux mêmes choses. On est toujours au final dans un choix de société.
Oui, et en fait, peut-être ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on a de moins en moins le choix de faire autrement, parce qu'on se retrouve de plus en plus bloqué dans tous les sens vis-à-vis des produits qu'on est susceptible d'acheter. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se dirait, tiens, je vais payer, moi ça me dérange pas, je paye mon produit le triple ou quatre fois plus cher, pas de problème parce que je veux un produit de qualité qui va être moins renouvelé, parce que voilà, il y aura moins d'impact écologique, j'exploite moins la misère d'autres personnes. Ça, sur beaucoup de produits, on peut même pas le faire aujourd'hui, parce que quelqu'un qui voudrait acheter, alors après on peut s'en passer, hein, mais admettons quelqu'un qui voudrait acheter un téléphone portable ou un écran de télévision ou n'importe quoi, un ordinateur, aller essayer de trouver un produit qui est fabriqué pour durer longtemps dans le respect d'un droit du travail correct, etc., du made in France, comme apparemment c'est un peu la mode chez quelques politiques de nos jours. Mais il y avait des Américains d'ailleurs qui avaient fait ce test-là, je ne sais plus si c'était dans le cadre d'une émission ou d'un genre de reportage, ils avaient essayé de consommer uniquement ce qui était produit sur leur sol pendant, alors je ne sais plus si c'était sur un temps limité, sur une année, etc. Et il y avait des produits, notamment le téléviseur, qu'ils avaient été incapables de trouver. C'est-à-dire, il s'était rendu compte qu'il n'y avait aucun téléviseur qui était produit aux États-Unis. Impossible. C'est-à-dire que s'il voulait être en cohérence avec une logique humaine et ou écologique, ce genre de choses, eh bien, il fallait qu'il se passe de l'écran de télé. Entre parenthèses, j'ajouterais, c'est pas un mal. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Voilà, je ferme la parenthèse.
C'est pas l'écran de télé dont il devrait se passer, c'est la télé, enfin, c'est l'émission. La télé.
Voilà, c'est ce qu'il y a dedans aussi. Donc voilà, c'est sûr que ça pose des soucis parfois pour obtenir ce qu'on voudrait, ce qui soit en cohérence avec nos convictions, parce que tout simplement, on est tellement allé loin dans cette société, dans cette logique économique, qu'il n'y a plus toujours de possibilité de faire réparer, d'acheter des choses qui soient peut-être un petit peu plus éthiques dans leur conception.
Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une société qui réduit les choix aussi vraiment sur les moyens techniques qu'elle procure, parce que par exemple, si aujourd'hui tu veux vivre sans téléphone portable, c'est compliqué, parce que si tu cherches un emploi par exemple, on va souvent te demander ton numéro de portable. Si tu veux faire des achats sur internet, tu peux avoir besoin d'un numéro de téléphone portable pour valider tes achats de temps en temps. Et donc cette société, elle te prive de certains choix au niveau individuel, parce que collectivement, la majorité des gens ont décidé de faire telle chose, et donc progressivement, au fil des années, ça va être impossible de revenir en arrière. Et c'est un peu une particularité des moyens techniques, c'est que c'est difficile, une fois que tu les as introduits, de revenir en arrière. Et donc ça te prive, la société, de certains choix s'ils n'ont pas été faits initialement.
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Et souvent, j'entends des gens dire « Mais comment on faisait avant ?» C'est par exemple ceux qui sont en bagnole avec leur GPS, qui branchent leur GPS, je vais à tel endroit, et puis qui disent « Ah, j'ai pas du tout le sens de l'orientation, mais comment ils faisaient avant, c'était impossible. » Et en fait, tu leur dis « Bah, je sais pas, avec une carte routière. » Ah ouais, avec une carte routière. Et des fois, t'as l'impression, tu tombes des nues parce que tu te dis « Ah oui, mais si, en fait, il y a 10 000 ans ou 50 000 ans d'histoire de l'humanité où on a fait sans ou autrement. » Et d'un coup, on a l'impression que on peut pas se passer de tel ou tel produit, de telle ou telle technologie ou prothèse technologique qu'on nous impose, ou qu'on s'impose peut-être aussi, alors qu'en fait c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, bon, moi je sais que quand je tiens ce genre de discours, on peut être tenté de me dire, voilà, réactionnaire, homme des cavernes, ce genre de choses, et on en parlait un peu en off. L'idée, c'est pas d'être anti-technologique ou d'être anti-progrès, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'on sait jamais trop ce qu'il veut dire. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les capacités qu'on a, les capacités techniques, les capacités technologiques qu'on a. C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'il faut forcément le faire, ou qu'il faut forcément le faire de telle ou telle manière. Il y a une réflexion qui est possible, et il est possible, je pense, il est même souhaitable, collectivement, qu'on s'interdise parfois certains choix, de se dire, bah, ça on pourrait le faire, bah, on va pas le faire, parce que polluant, parce que dangereux pour la santé de tel groupe de personnes, parce que trop dangereux à produire peut-être, pensons aux ouvriers qui vont se remplir les poumons de produits chimiques ou autre chose, peut-être se dire, bah voilà, ça c'est pas utile, on va éviter de pourrir la santé de certaines personnes, alors qu'on pourrait très bien se passer de ce gadget-là. C'est des réflexions, j'ai l'impression qu'on les a pas actuellement au niveau social. Une entreprise développe une technologie et se dit je vais faire de l'argent avec, et personne se pose la question de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est...
C'est toujours pareil, c'est un schéma de société. À partir du moment où le critère c'est d'avoir une Rolex à 50 ans et pas de savoir si ce qu'on fait c'est bien pour la société, on va repartir sur l'exemple des écrans de télé. Bon, actuellement il y a une usine qui existe, je ne sais plus où exactement, je crois qu'elle est en Chine, et elle travaille avec une quinzaine de personnes dedans, et elle est capable de produire pratiquement la consommation d'écran qu'il faut pour fournir la terre entière. Donc ce genre de choses repose la question de la relation au travail. C'est quoi le travail? C'est quoi l'objectif de l'entreprise dans une société? Bon, ben, à partir du moment où une société est une entreprise... Quand je dis société, c'est une entreprise, est au service de la société en général.
Bon, il est évident que des systèmes comme l'obsolescence programmée et tout ça sont naturellement complètement repensés. L'obsolescence, c'est un élément de plus qui montre ce que donnent les choix de société qui ont été faits sur ces dernières années. Donc le profit pour tout et le profit avant tout.
Voilà, et ce qu'on peut peut-être ajouter là-dessus, c'est qu'il y aura une limite de toute façon, qu'on le veuille ou non à un moment donné. C'est-à-dire que cette logique d'obsolescence programmée permanente, elle s'arrêtera de facto. Alors je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais je ne sais pas si c'est dans 20 ans ou dans 50 ou dans 200 ans. Mais il y a un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas renouveler sans arrêt nos biens de consommation parce que tout simplement, il n'y aura plus de ressources, parce qu'il n'y aura plus une nappe phréatique qui sera de qualité exploitable.
Mais c'est pas le problème des gens qui font tourner le système actuellement.
Ils se disent de toute façon je serai mort. Voilà. C'est, effectivement, c'est pas faux, ils seront sans doute morts le jour où tout pètera, si ça pète un jour, mais...
Espérons qu'on soit là, nous.
Ouais, bah oui.
Voilà, pour en venir à ça, l'obsolescence programmée, c'est un des éléments d'une politique orientée profit à court terme,
c'est ça, oui.
Et profit d'un petit nombre. Bon, on revient en grand mot à l'exploitation de l'homme avec un petit H, enfin de l'homme avec un grand H par l'homme avec un petit H.
C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous, quoi. Un gros compte en banque et puis un gros tas de déchets, de pollution, de gens qui ont souffert dans des usines pour produire tout et n'importe quoi. C'est bon, voilà, apparemment, c'est difficile de poser ces questions. J'ai l'impression que je ne suis pas un gros consommateur de médias de masse, mais il n'y a pas de message comme ça, ou très rarement, qui est passé pour dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, ce mode de production et de consommation. C'est pas viable. Ça, je pense que... Enfin, n'importe quelle personne à peu près normalement constituée est capable de le comprendre. Sur du long terme, c'est pas viable. Et pourtant, tout le monde est dans cette course à la croissance, la production, toujours plus de travail pourri pour les uns et de profits record pour les autres.
Actuellement, il y a un petit frémissement sur l'obsolescence programmée, parce que je crois que la marque dont on parlait tout à l'heure est allée quand même un petit peu loin dans ces trucs.
Ça, c'est...
Donc, je sais qu'il y a quelques émissions de radio ou de télé qui sont en cours de préparation sur le sujet, mais ce dont j'ai peur, c'est qu'on se limite à des généralités, à dire c'est pas bien, etc., et qu'on voit pas justement la relation avec le type même de la société. C'est-à-dire qu'on va nous présenter ça comme encore une fois une dérive... une dérive de la société ou une dérive du fonctionnement de notre société, alors qu'en fait c'est pas une dérive, c'est dans la logique du système actuel.
C'est le fonctionnement de la société.
C'est le fonctionnement du système actuel. Il faut faire du bénéfice, il faut faire des profits le plus vite possible, et c'est un moyen évident. Donc ce dont j'ai peur, c'est que dans les médias traditionnels, ça va être présenté comme les vilains grands méchants loups, alors qu'en fait c'est la logique du système.
Oui, et comme tu disais, Guillaume, tout à l'heure, c'est vraiment difficile dans les médias de parler, par exemple, d'un choix technologique de société. Déjà, je pense que ça se fait pas... vraiment difficile. Par exemple, on n'arrive même pas à faire un référendum sur le nucléaire. C'est une grosse technologie dont les gens comprennent plus ou moins les enjeux.
C'est vrai.
Et on n'arrive pas à prendre une décision, qu'elle soit politique. C'est vraiment difficile pour les partis en présence et citoyenne avec un référendum ou une votation ou quoi que ce soit. Et la technologie, c'est un processus qui est... Je vais mal citer un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Ellul, qui a beaucoup étudié la technologie. Et la technologie s'alimente elle-même. C'est-à-dire que quand on a une innovation technologique, c'est difficile de ne pas la répandre dans la société, parce que ça va facilement être considéré comme liberticide. Si on dit tel bidule, on ne l'utilise pas parce que ça a des mauvaises conséquences. Dans notre société, il faut avouer que ça serait difficile à faire passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient que c'est tyrannique, même s'il y a des bonnes raisons. Et ensuite, la technologie appelle la technologie. Comme tu disais, par exemple, quand on commence à avoir des voitures, on va créer tout un système technique d'autoroutes, de routes, de déplacements à but privé qui vont rapidement oblitérer les moyens de transport public, je pense bus ou train. Et donc, au bout de quelques années, dans la société, on n'aura plus le choix entre déplacement privé ou déplacement en commun, parce que toute la société a évolué autour de la voiture. Et c'est un pas en arrière impossible, et donc il n'y a plus de choix possible.
Oui, c'est le cas. Nous, on ne s'en rend peut-être pas compte beaucoup en France sur cette question des transports, parce qu'on a un réseau ferré qui est, et transport en commun en général, qui est assez développé. Mais aux États-Unis, par exemple, leurs transports ferrés sont très peu développés, en tout cas en comparaison de ce que nous on a, et ils sont vachement, vachement sur la bagnole individuelle. Et être états-unien aujourd'hui et vouloir faire le choix de ne pas se déplacer en voiture, c'est à moins d'habiter dans une grande ville où il y aurait un métro, pourquoi pas, mais sinon, c'est quasiment, quasiment impossible.
Il y a quand même un détail qui fout, détail entre guillemets, aux États-Unis, c'est que le réseau ferré est très peu développé pour le transport de voyageurs, mais par contre, pour le transport de marchandises, ils sont très très bons. c'est un réseau qui a les plus grosses capacités. Bon, ils ont eu de la chance, ils ont démarré tard, mais ils sont capables de... Ils ont des convois absolument monumentaux, du style deux semi-remorques entassés l'un sur l'autre, les conteneurs, etc. Non, mais c'est sérieux. Leur système de transport marchandises ferré est assez efficace. Alors qu'à côté de ça, il y a des voies qui ne voient jamais passer un wagon de voyageurs. Parce qu'elles sont utilisées que pour la marchandise.
Exclusivement pour ça. Ouais.
Mais tu disais, en France, on a un réseau ferré qui est quand même acceptable. Ok, mais si tu compares, par exemple, la densité du réseau ferré par rapport en 1900, je crois que sur Internet, si tu cherches 1901 voies ferrées, tu trouves un truc où tu as vraiment un maillage qui est une toile d'araignée incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de... Enfin, c'est absolument pas comparable entre la densité du réseau ferré actuellement et précédemment.
Et ce qui est intéressant pour ça, bon, il m'arrive de temps en temps, c'est pas pour aller déposer de l'argent, hein, mais je connais des gens en Suisse. Et donc, je connais des gens qui habitent dans les coteaux suisses, enfin, un peu dans la montagne. Et la Suisse a gardé ce que nous, on n'a pas gardé en France. En France, il y avait ce qu'on appelait dans le temps le petit train départemental. Donc, c'était un train à voie étroite. Et je me rappelle, dans les Pyrénées, ça remontait pratiquement toutes les vallées. Et ça a disparu. Alors qu'en Suisse, ils ont gardé, ils ont deux réseaux ferrés, il y a un réseau à voie étroite, etc. Ils ont gardé tout ça, et ce qui fait que il y a un maillage de transport en commun qui est très intéressant. Et ça, c'est une volonté délibérée. C'est l'époque de Pompidou, priorité à la voiture, etc. C'est pareil, c'est un choix sociétal.
Oui,
c'est un choix sociétal, mais comme tu disais Clément tout à l'heure, effectivement, il y a un choix qui est quelque part imposé d'en haut. On dit voilà, on va faire du nucléaire, on va faire la bagnole, on va faire ceci, on va faire cela. Et il n'y a jamais de réflexion citoyenne. Il n'y a même pas d'études, par exemple, où on nous balance du Wi-Fi dans tous les sens. Il y en a qui disent attention, ça peut peut-être être dangereux, ça peut peut-être faire des cancers. Il y en a qui disent mais non, il n'y a pas de problème. Au final, on n'en sait rien. Donc peut-être il n'y a pas de problème et tant mieux. Peut-être... il y a un problème et c'est quand même embêtant, mais on n'en sait rien parce que simplement on fait pas les études, on débat pas sur la question, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, est-ce que c'est pas dangereux mais qu'on veut le faire quand même, oui, non, parce que ça peut être tout à fait sûr et avoir des intérêts et on peut choisir de ne pas le faire pour X raisons culturelles, pratique, je sais pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut, philosophique, pourquoi pas.
Mais Guillaume, tu es en train de nous dire que tu ne crois pas que nos politiques sont capables de prendre des décisions à notre place? Comment ça? Nos techniciens, nos énarques et nos politiques.
Les politiques, les têtes pensantes, les cerveaux de la nation aussi, bien sûr.
On est pareil, on est dans le domaine des choix de société. On a fait un choix de société où on élit des gens, où ces gens-là prennent les décisions à notre place et qu'ils n'ont pas de compte à nous rendre. On est toujours dans ce genre de société soi-disant démocratique, mais où l'élu n'a pas de compte à rendre à ses mandants. D'ailleurs, c'est un élu, c'est pas un mandaté.
Ça dit bien, les mots ont une importance.
Voilà.
Et c'est vrai que du coup, on se retrouve 20 ans, 30 ans, 50 ans après avec des problématiques comme par exemple celle de l'obsolescence programmée, dont il va être, si on y arrive un jour, dont il va être très très difficile de se tirer, parce que maintenant qu'on est dans cette logique-là, arrêter le train en pleine course à 200 à l'heure, ça va pas être facile. Et puis changer de système, faire autrement, c'est pas impossible, hein, il faut essayer, mais ça risque d'être coton quand même. Petite coupure.
Eh bien écoutez, on va faire une petite coupure là. Colin va nous envoyer la musique et on va vous retrouver dans quelques instants.
Tout va dépendre de la conjoncture, mais avec un peu de bonne volonté, ce gouvernement s'en sortira.
si les élections n'étaient pas indispensables à la prospérité du capital, on ne nous les servirait pas partout, toujours à coup de fric, à coup de flic. Si le vote n'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes, on ne nous la scènerait pas à tous les coups d'assemblée syndicale. N'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule.
It seems a little strange, but I just can't explain why I'm tearing out a page and then I'm sending it out over the ocean. And I've been feeling down lately ever since I met you, baby. People say I'm acting crazy. They say that I'm over emotion.
Bonsoir, donc dernière partie de l'émission, ce soir, le lundi, donc l'émission de la CNT, de la Confédération Nationale du Travail, Le Monde Merveilleux du Travail, ce soir, premier lundi, le syndicat de l'industrie informatique, donc on a parlé jusqu'ici de l'obsolescence technique programmée, donc l'évolution de l'obsolescence technique au début avec les produits où techniquement, c'était des produits à durée de vie limitée, ça c'était quelque chose d'imposé par la nature, et puis le fait que pour des questions de marketing, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire en sorte que les produits ne durent pas trop longtemps. Et au final, l'obsolescence de type mode, c'est-à-dire carrément, même si le produit peut durer plus longtemps, on va faire en sorte qu'il y ait une nouvelle version pour que les gens l'achètent. Donc on a parlé de tout ça. Je vous rappelle que le 27 octobre, au 33 rue des Vignoles, les locaux de la CNT, le syndicat de l'industrie informatique organise une projection débat. Donc vous trouverez les informations sur notre site. Et on va terminer la discussion de ce soir en regardant les implications. On a dit plusieurs fois pendant la soirée qu'en fait les choix qui étaient faits sur l'obsolescence programmée étaient quand même des choix de société, des choix de mode de fonctionnement.
Je crois qu'on a Colin qui nous fait signe parce qu'il voudrait dire un petit mot, si je comprends bien.
Oui, avant de continuer là-dessus, donc on a eu deux appels pendant la pause musicale. Et donc, il y a une première personne qui nous a appelé, c'est une personne âgée qui nous fait signe que dans les années 20 aux États-Unis, au début de l'industrie automobile, les moteurs étaient pratiquement increvables, ils marchaient super bien et tout. Et donc, il a été envisagé de mettre un petit réservoir d'acide au-dessus des moteurs.
C'est pas mal ça.
Pour limiter leur durée de vie. Bon, bien sûr, ça s'est pas fait, hein, heureusement. Enfin, sinon, ça aurait fait un petit peu scandale, bien sûr.
Ils auraient pu le faire, cela dit.
Voilà.
On n'aurait pas surpris.
Et donc, voilà, il nous appelait pour nous dire ça. Et il y a eu un deuxième appel. Donc là, c'est une petite question un peu plus difficile, qui est donc comment convaincre, comment expliquer ces phénomènes donc aux employés et aux directions syndicales. Parce que, par exemple, si on prend le cas de PSA, dans l'automobile, ils sont actuellement... il y a des licenciements qui vont leur tomber dessus, qui leur sont déjà tombés dessus. Et donc, comment expliquer donc, ces phénomènes et comment les convaincre aux ouvriers, aux employés, aux directions syndicales, etc. Voilà.
Alors justement, ça va exactement dans le sens de ce dont on avait l'intention de discuter. Ce sont des choix de société. Et je crois qu'à un moment, peut-être moi qui l'a dit, la question c'est de savoir est-ce que le travail c'est quelque chose qu'on fait contraint et forcé un nombre d'heures invraisemblable parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de survivre, ou est-ce que le travail c'est quelque chose qui est fait dans une société pour fournir des biens à la société. Et comme disent les libertaires, à chacun selon ses besoins et de chacun suivant ses moyens. C'est-à-dire qu'il faut repenser la relation au travail, etc. Alors, on sait que le travail tel qu'il est conçu actuellement, il n'y en a pas pour tout le monde. Il n'y a pas la charge de travail pour occuper tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous être chômeurs? C'est pas certain. C'est si les financiers prennent moins de bénéfices, etc., il y a de quoi faire pour tout le monde. C'est Gandhi qui a dit « la terre a de quoi satisfaire tout le monde, sauf la cupidité de certains ». Donc c'est exactement le sens qu'on avait l'intention de donner à la fin de l'émission. Donc c'est ça par rapport aux choix de société ou aux propositions de société que font les libertaires.
Oui, parce qu'effectivement, si on reprend l'exemple là, de l'auditrice sur PSA, c'est vrai que si on raisonne dans le système actuel, dans la situation telle qu'elle est, et bon, quelque part, on n'a pas le choix, la réalité est ce qu'elle est, donc effectivement c'est délicat d'aller auprès des salariés de PSA et de leur dire « Ah non mais les gars, en fait c'est bien que l'usine s'arrête parce que vous savez, ça pollue et puis la bagnole c'est pas génial. » Bon, eux c'est leur emploi, c'est leur gagne-pain, ils se retrouvent au chômage, ils ont plus de quoi vivre derrière. Donc, et puis bon, après on pourrait parler de l'attachement à l'entreprise, du travail qu'on a fourni, etc. Ça rentre évidemment aussi en compte. Après je pense que pour raisonner contre ce système, cette logique d'obsolescence programmée et de production telle qu'elle est pensée, il faut raisonner dans un autre modèle de société. On ne peut pas raisonner en termes de société capitaliste et dire on va rester dans une société capitaliste sans l'obsolescence programmée. C'est indissociable, c'est comme le capitalisme sans chômage ou sans finance ou avec une finance moralisée ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens parce que la finance n'est pas morale, ne peut pas être morale dans un système comme ça, de même que l'obsolescence ne peut pas disparaître dans un système comme ça. C'est comme si on disait on veut garder la cheminée mais on va enlever le combustible qui permet de l'alimenter. Ouais, bah super, bon, ça fait peut-être une déco, j'en sais rien, mais ça a pas de sens, quoi.
Il y a des discussions qui se font jour sur ces sujets-là. Alors, elles vont peut-être pas aussi loin que les modèles libertaires, mais il y a un certain nombre de discussions qui reviennent sur le revenu universel. Je pense en particulier au livre de Bernard Friot, L'enjeu des retraites. Alors, ce sont des discussions qui sont intéressantes parce que déjà, on voit qu'en restant dans le modèle capitaliste, on est capable de faire vivre les gens en les faisant travailler entre guillemets moins, c'est-à-dire en leur permettant d'avoir un travail intéressant, utile et orienté. Mais ce sont des discussions qui restent quand même sur un modèle capitaliste. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin en employant des modèles un peu plus évolués politiquement.
Bah, y a nos amis objecteurs de croissance qui ont un argumentaire assez développé sur ce sujet, en particulier sur l'exemple de l'auditrice de PSA. Je pense que la réponse d'un objecteur de croissance, ce serait de dire que dans une société où le but, c'est pas de produire à tout prix, on aurait, par exemple, une économie de la réparation. Et donc, les ouvriers de chez PSA qui ne seraient pas affectés à la production pourraient être mécaniciens dans des garages ou pourraient être affectés à des entreprises qui travaillent sur des transports qui sont publics. Comme on disait tout à l'heure, l'essor de la voiture privée a réduit l'importance du train. Et donc, s'il y avait moins de voitures, il y aurait plus de trains, par exemple, et on pourrait reconvertir les ouvriers de chez PSA dans d'autres domaines.
Et même, j'irais encore au-delà de ça, je dirais, peut-être par provocation aussi, s'il y a moins de travail, bah, tant mieux. Et on n'est pas forcément obligé de boucher le trou avec du travail. On est capable de concevoir des machines ou des méthodes pour produire plus facilement en termes de conséquences physiques. On a besoin de moins de force humaine en se reposant sur une machine, par exemple. Tant mieux, à condition que la machine ne mette pas un humain dans la misère. Si c'est pour libérer du temps et améliorer la santé de l'ouvrier, moi je dis très bien, mais là, on revient dans l'idée de choix de société. Il faut que ce soit un choix de société. Si on est dans le système qu'on connaît actuellement, effectivement, l'ouvrier qui perd son emploi, soit parce qu'il est remplacé par une machine, soit parce qu'il est remplacé par un autre ouvrier à l'autre bout du monde, c'est un drame. C'est un drame pour lui. Alors que ça pourrait tout à fait ne pas l'être. Ça pourrait au contraire être un bien, mais il faudrait complètement repenser...
C'est une reprise complète de la notion de travail. Le travail peut être vu comme quelque chose de productif, de fournir à la société ce dont elle a besoin pour fonctionner. Et donc, on peut, à ce moment-là, si on raisonne comme ça, on peut faire en sorte que les boulots pénibles, les travaux pénibles soient laissés à des machines ou assistés par des machines et que les travaux plus intéressants, plus enrichissants soient affectés à l'humain. Il ne faut pas oublier que le mot travail, hein, l'origine du mot travail, c'est quand même l'instrument de torture qui s'appelait le tripalium. Ouais. Donc il y a quand même une connotation pénible dans la notion de travail. Le travail, pour les chrétiens, est enrichissant, c'est une source de rédemption. Mais nous, on a d'autres vues quand même. Nous, le travail, ça doit être quelque chose juste pour permettre à la société de fonctionner. Et puis le reste du temps, l'homme doit avoir du loisir.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'il faut concevoir une société où on va réfléchir. Alors déjà, peut-être deux axes. Ralentir, pas être tout le temps dans la précipitation, à penser vitesse, il faut développer des nouvelles technologies, développer des nouveaux besoins, finalement, qui derrière, il faut satisfaire le plus vite possible. Donc il faut ralentir pour qu'on ait le temps, collectivement, de se poser des questions. Les technologies, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire? Est-ce qu'on veut le faire, est-ce qu'on ne veut pas le faire? Le temps de prendre les études nécessaires en termes de risques, en termes de pollution, en termes d'impact sociologique, etc. Ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire. On ne peut pas se permettre de dire on va prendre 5 ans ou 10 ans pour étudier telle ou telle technologie. Est-ce que ça va être dangereux? Est-ce que ça va être bénéfique? Quelles conséquences ça peut avoir? Donc déjà, je pense qu'il faut qu'on ait le temps, pour qu'on ait une société de la lenteur, pour que collectivement, les citoyens puissent se réapproprier de politique et véritablement débattre, décider qu'est-ce qu'on fait, comment on organise le travail, qu'est-ce qu'on a besoin de produire, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de produire, etc. Donc,
il ne faut pas perdre de vue aussi qu'une société suivant ces choses-là, ce n'est pas une société triste et pauvre où on s'ennuie et on n'a pas ce qu'il faut. Au contraire, c'est une société où l'homme vit pour le bien, le plus grand bien du plus grand nombre.
L'homme est au centre de la société.
Exactement. Ouais, voilà. Et ce n'est pas triste.
Plutôt que de passer du temps devant la télévision à consommer tout le temps, on pourrait faire des choses plus intéressantes. Comme tu dis.
Eh ben écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous retrouvera donc le mois prochain. Donc je rappelle sur Radio Libertaire, tous les lundis, c'est l'émission de la Confédération Nationale du Travail, Le Monde Merveilleux du Travail. Et le premier lundi du mois, si on est tous là et qu'on a trouvé un bon sujet, eh ben c'est le syndicat de l'industrie informatique qui vous parle. Bonne soirée et on va laisser la place au suivant.
Un rappel rapide sur notre soirée, projection débat. Qui aura lieu au Vignol, donc Bernard l'a suffisamment répété, mais je le répète encore une fois, parce que mieux vaut trop que pas assez. Donc ce sera le 27 octobre, samedi 27 octobre, au Vignol, projection d'un film et débat. Venez, il y aura de la bière. Voilà.
Allez, bonne soirée et à bientôt.